Vous écoutez
RMC.
RMC.
Welcome, Silvino. Are you okay? And are you happy to be here?
I am very happy to be in the big club Tottenham.
Jusqu'à minuit, c'est l'after foot.
I want to win here, you know, before. And after that, we will see. Or we go to fish. Hein?
Nicolas Jamain.
L'after foot RMC jusqu'à minuit, 21h, avec Jonathan Macardy, Oussem Loussaïef, Kevin Diaz, et j'accueille Daniel Riolo. Salut Daniel.
Bonsoir Daniel.
Tout va bien Daniel? De retour en dans les studios.
Ouais, ouais, c'est bien.
Et t'es bien aussi, j'ai toi en marque. Hein. Bosser de chez soi, c'est pas mal, non?
Alors, un soir, ouais, deux, ouais, après, non. Après, ça devient pénible. Ouais.
Messieurs, arrivent les drôles de dames. Tiens, quelques infos qui viennent d'être officialisées. Nouvel entraîneur officialisé à Watford, c'est Roy Hodgson. Ouais. Éternel coach.
Non.
Incroyable.
Ah oui, mais pas qu'en France,
en France, on dit on recycle les vieux entraîneurs de Ligue 1. Mais en Angleterre, on fait pareil.
Ah,
mais
bien, parce qu'en Angleterre, ça marche pas non plus.
74 ans.
Ah, mais Roy Hodgson, en fait, d'abord, ça a quasiment jamais marché. Mais là, ça fait vraiment très longtemps que ça marche pas, quoi. Il restait qui à recycler en Angleterre?
Non, Allardyce,
oui. J'allais dire, Big Sam. Alan Pardew.
Exactement.
Enfin, tout ça, c'est la clique, vraiment, des losers tocards, quand même.
C'est Roy catégorie, losers tocards, double peine.
Alors, le truc, c'est que Roy Hodgson, je dirais pas losers tocards, parce que j'ai beaucoup de respect pour le mec, qui est très élégant, qui est un type bien et tout, mais qui est en entraîneur et largué depuis des années. Les deux autres, c'est quand même vraiment des losers tocards.
Bon, et sachez qu'a priori, Blaise Matuidi est au chômage. L'Inter Miami de David Beckham a publié sa liste de joueurs pour la saison. Mm. Higuain, tête de gondole.
Ah, il a été viré.
Il n'est pas dans la liste du tout, donc ça veut dire qu'il ne sera plus.
Ça fait quelques temps.
Mais là, c'est officiel, donc il est libre.
Saint-Étienne.
Et pourquoi il est
revenu? T'as raison, Saint-Étienne.
Il n'y a pas une pige à faire dans un club en France.
Mais à Saint-Étienne, avec Gomis. Ouais. Il y a Aubameyang aussi. Ils viennent. Ben voilà, ils prennent les trois. Les trois viennent gratos pour sauver le club.
Allez, messieurs, jingle.
Ça sera la belle histoire de Noël.
Jingle, drôle de dame. J'accueille Julien Laurence. Bonsoir, Julien.
Salut Nico, salut à tous.
J'accueille Johan Crochet, bonsoir Johan.
Salut Nico, bonsoir à toutes et à tous.
Et j'accueille Polo Breitner, bonsoir Polo.
Bonsoir mon cher Nico, bonsoir tout le monde.
On a eu un deuxième tour de chance cette semaine, on a un nouveau récital. On a eu le récital du lundi, on a un deuxième tour de piste.
Et figure-toi que tous les thèmes prévus hier n'ont pas été évoqués.
Mais évidemment, le foot étranger ça passionne tout le monde.
Tout le monde, nos auditeurs. Tiens, rapidement, Julien, sur Roy Hodgson, que Daniel place dans la catégorie des losers tocards.
Bah, c'est quand même incroyable, hein, ce qu'il dit, Nico. Hein.
Ah, laisse-moi finir. Avant de se reprendre quand même, eu égard à son passé.
Non, j'ai dit mauvais entraîneur. Je ne dirais pas pour lui losers tocards, parce que je le respecte, parce que c'est un homme élégant, classe et tout. Les losers tocards, c'était Big Sam et Pardew.
Ouais. moi je comprends pas du tout. Alors après
pas, c'est une catastrophe hein. Il est largué complet le pauvre.
Ah oui, complètement. Après on peut effectivement
avec son blazer croisé avec les boutons dorés là qui est à la mode il y a 50 ans.
Non, alors le plus marrant déjà c'est qu'il y a 20 ans
dans les années 80 ce blazer croisé avec les boutons dorés.
Bon, non, mais après il y a l'élégance britannique effectivement qui est un petit peu comme la famille royale, c'est
la mode
daté parfois.
Julien, la mode évolue.
Tout à fait, mais
ah non, avec blazer croisé bleu avec des boutons dorés, c'est un code. C'est quand même quelque chose de classique.
Arrête.
Non,
arrête.
C'est beau.
Mais
l'inspecteur Gadget, je peux te dire que c'est pas de
classique. Jonathan, arrête.
Ce qui est marrant, c'est qu'il s'est quand même fait déjà virer une première fois par la famille Pozzo. Quand ils arrivent à l'Udinese, hein, il y a 20 ans, c'était lui l'entraîneur à Udine. Ce qui est assez marrant, parce qu'en fait, finalement, la boucle est bouclée, mais j'aurais jamais cru qu'il serait allé chercher Roy Hodgson pour les 6 mois à venir. Que lui sorte de sa retraite à son âge, en plus, il a quand même 74 ans, il a eu 74 ans au mois d'août, pour faire cette pige-là, dans une situation très compliquée, avec un groupe de joueurs qui est pas très talentueux, même s'il y a quelques ressources quand même. Ça me surprend aussi de sa part. Alors peut-être qu'effectivement il est resté assez proche des Pozzo et que c'est pour leur rendre service. Je comprends pas trop en fait. Je comprends pas pourquoi ils vont le chercher lui, sauf s'ils sont convaincus qu'il va en faire une machine à défendre très forte et qu'ils vont se maintenir comme ça. Ce qu'il avait fait à Crystal Palace finalement, parce que dans les 4 ans qu'il a passé à Palace, c'est ça en fait. Ils étaient très solides, c'était très conservateur, c'était très bien organisé, très structuré. Voilà, et ça a fonctionné parce qu'ils se sont maintenus. C'était pas beau à voir. Il y avait aucun plaisir à prendre. C'était ni joueur ni supporter. Mais ça a marché pour ce qu'ils voulaient faire. Donc peut-être que ça marchera pour les Pozzo et pour Watford.
De toute façon, Roy Hodgson, il a appris son métier dans l'Italie du béton. Il a été très c'est marqué ça, ouais. par ça et c'est ça son truc à lui.
Alors Julien, tu restes avec nous.
Après j'ai beaucoup de respect pour lui. Hein. C'est quelqu'un quand même qui a fait une vraie belle carrière.
Mais enfin c'est un mauvais quand même.
Mais et qui parle et qui est francophone aussi. Mais voilà après sinon je comprends pas trop la logique en fait.
De toute façon il parle plein de langues. Il est sympa dans un dîner quoi.
Pour les choix d'entraîneurs, il y a toujours plein d'histoires.
Juste Julien rapidement, mais pour les choix d'entraîneurs en Angleterre sur ces dernières années, il y a quand même Watford. Ils te font des trucs, ils prennent un entraîneur, ils l'enlèvent, ils le remettent, ils en mettent un troisième. Là,
déjà troisième entraîneur.
Il y a deux ans, avant de descendre, ils remontent, ils refont la même erreur. En fait, c'est eux, Norwich.
C'est fini l'époque Elton John.
Everton qui va prendre Rafa Benitez. Je suis désolé, mais ça ne marche pas.
Il y a pénurie d'entraîneurs, Kevin. Parfois, entre le, j'ai pas d'imagination. Je sais pas quoi faire, je prends la liste et je prends des noms comme ça. En fait, il y a maintenant tellement de clubs qui veulent avoir des ambitions, qui pensent en avoir, enfin, à un moment, il y a plus de choix. Soit tu te lances sur un inconnu, mais généralement, s'il est inconnu, justement, c'est pas des gens qui sont pas réellement du foot qui vont les connaître, encore que la famille Pozzo, normalement, elle devrait un peu connaître depuis le temps qu'elle est dans le foot. Mais effectivement, on va au plus simple, on prend une liste, on voit un nom, on va prendre ce mec-là, quoi.
Il y aurait beaucoup à dire sur les Pozzo, hein, même du côté de l'Udinese.
Beaucoup
de choses à dire.
Alors, Johan, justement.
Mais là, tu veux pas un soir?
Attends, juste pour
faire Pozzo, Johan, c'est quelque chose, le système.
Ouais, faudrait nous en parler. Plein de choses. T'as raison, on aura le temps. Tiens, la semaine prochaine, peut-être, par exemple, Johan.
Julien, juste pour finir. Donc, depuis l'an 2000, il y a eu 23 entraîneurs différents à Watford. Donc, en 22 saisons, on va dire. Ça fait quasiment donc un entraîneur par an. Voilà, ça résume à peu près tout. Alors, ils ont été beaucoup en première ligue. Ils ont fait le yo-yo un petit peu aussi avec le championship, mais j'imagine que les Pozzo s'y retrouvent aussi, sinon ils auraient une gouvernance différente de leur club. Donc voilà.
Mais juste pour la faire très courte, Nico, pour pas bousculer le programme, Watford c'est la priorité absolue des Pozzo maintenant, et c'est une simple question financière. C'est que les retombées en première ligue sont bien plus importantes les droits télé sont beaucoup plus importantes en première ligue qu'en Serie A. Ils sont en train de totalement délaisser l'Udinese. C'est bien simple, je la fais très courte. Quand ils recrutent des jeunes joueurs à l'Udinese aujourd'hui et depuis quelques années, la promesse c'est dans deux ans t'es en première ligue à Watford.
D'accord. Bon, si Watford se maintient, ce qui est pas gagné pour l'instant. On est en train de s'énerver là, 6 jours de la fin du mercato d'hiver, et notamment en Angleterre, la Juve, Johan, qui est sur le point.
Non, la Juve, c'est l'Italie, donc du coup.
Qu'est-ce que j'ai dit?
Notamment en Angleterre, la Juve et Johan.
Notamment en Italie.
Mais c'est lié, c'est un peu lié pour Vlahovic. C'est lié aussi.
C'est lié.
Ah oui.
Vlahovic va signer à la Juve, Johan.
Alors ça, c'est une sacrée surprise pour moi.
Alors, je sais, on va commencer par la base. Le montant de transfert estimé 70-75 millions d'euros.
Mais c'est avec quel argent?
Alors, on va y venir, Jonathan. Le salaire 7,5 millions net par an. Contrat de 4 ans et demi. Vous savez ce que je pense de la Super League, c'est pas mal pour un club qui est menacé de disparition, à en croire Andrea Agnelli, qui nous a fait croire que pour faire survivre la Juve, il fallait absolument la Super League. Mais bon, visiblement, 75 millions d'euros, c'est tout à fait possible de les sortir, même en étant à deux doigts de mourir. Donc,
ils sont toujours capables de faire un échange. Hein.
C'est toujours intéressant. Non, ce sera pas ça là pour le coup. Alors évidemment, on va partir sur une grosse plus-value sportive là pour le coup, et pas financière pour la Juve, parce que c'est un jeune attaquant qui a mis 33 buts sur l'année civile en 2021, qui est monstrueux depuis maintenant un an, une bonne année en Serie A.
21 ans mais, seulement.
Mais attention. Attention, parce que je vais rappeler un peu ce que je disais hier. Sa seule arrivée ne pourra pas résoudre tous les problèmes. Parce qu'on va pas me faire croire que Chiesa, Dybala, Morata, Kulusevski et Keane, ça composait pas une attaque de haut niveau. Ça, il y a les copains journalistes d'Allegri qui font croire ça en disant que c'est un problème, etc.
Tu veux dire, c'est pas une priorité,
etc. Non, mais s'il est autant isolé que les noms cités par Johan, ça sert à rien. Hein.
C'est même pas une question de priorité, Nico. C'est juste que les joueurs de talent qui jouent les attaquants qui jouent à 40 mètres du but adverse ou à 50 mètres du but adverse, c'est difficile de se créer des occasions et de marquer. Je vais juste vous faire quelques petits points comme ça que j'ai recherché dans l'après-midi, parce que évidemment moi j'en ai marre de lire que l'attaque de la Juve c'est pas possible, que ils sont pas bons, que ils ratent des buts tout faits, etc. J'en peux plus, et ça encore une fois c'est les relais d'Allegri dans la presse italienne qui sont bien contents de surtout pas remettre en question le travail d'Allegri. Donc, on va parler vraiment sur le secteur offensif. La Juve est 10e au classement des expected goals. Il n'y a pas un seul joueur dans le top 20 du côté des joueurs, des expected goals. La Juve, elle a du mal à se créer des occasions, des grosses opportunités de marquer. D'ailleurs, pour info, quand on nous dit « Ouais, il rate plein de buts », on lit ça dans la presse italienne, « Ouais, il rate plein de buts, c'est pas possible,
les finitions pareilles. » Donc en fait, il ne faut qu'un mec un peu habile pour transformer ce qu'il prépare bien.
Ouais. Alors, ce qui n'est pas vrai du tout. Donc, 31 expected goals pour la Juve, 34 buts marqués. Donc, le delta, il est de plus 3. Naples, par exemple, ils sont à plus 5. Mais sauf qu'eux, ils créent beaucoup plus d'occasions, ils marquent beaucoup plus de buts, bizarrement. Donc, ils sont pas du tout sous-performants devant le but, comme certains journalistes proches d'Allegri essayent de nous faire croire. Ils sont 9e sur le nombre de ballons touchés dans le dernier tiers du terrain, c'est-à-dire le plus près du but adverse. Autrement dit, ils passent pas beaucoup de temps non plus proche du but adverse. Sur les indicateurs de pressing, la Juve, eh ben, elle est 10e. Milan et Naples, bizarrement, ils sont bien classés. Ils sont dans les trois premiers. Dans les 30 meilleurs buteurs du classement, c'est-à-dire au moins 6 buts, il n'y a qu'un seul joueur de la Juve, c'est Dybala avec 7 buts. Bizarrement, il y a 3 joueurs de l'Inter. Il y en a même 3 de Sassuolo, il y en a même 3 de l'Hellas Vérone, il y en a 3 de la Lazio.
Si Dybala va faire un chemin inverse et se barrer, parce que j'entends qu'il se barre.
On verra, a priori, ça pourrait prolonger en fait. Peut-être pas aux mêmes conditions, mais. Ouais. Mais
il ne nous ferait pas comme le FC Barcelone à prolonger un joueur pour des raisons.
Mieux le vendre.
Économique.
Ouais, exactement. Je connais un journaliste très proche de la Juve qui m'a dit aujourd'hui que normalement, même dans les prochains jours, on pourrait avoir des bonnes nouvelles sur la prolongation de Dybala.
Ce serait pas sur les sommes faramineuses que tu nous disais il y a quelques semaines.
Ça sera à voir. Il y a peut-être une renégo, mais on restera sur des montants importants. Hein,
Dybala, Vlahovic, il n'arrive pas à monter une équipe.
Justement,
Daniel, juste pour rester là-dessus, tu pourrais nous en... comment ils ont trouvé ces sous.
Alors attends, je vais y venir. Jo, je finis juste sur Vlahovic et son arrivée.
Public qui t'intéresse,
j'ai l'impression.
Il peut plus. Il a 40 000 euros,
c'est normal.
Ça suffit.
Ce que je disais sur l'arrivée de Vlahovic, c'est qu'il peut pas régler tous les problèmes lié au jeu et à la frilosité d'Allegri, en fait. Ok, il va beaucoup apporter sur le front de l'attaque, c'est indéniable, il est plus fort individuellement que Morata, ok, pas de problème, aucun doute là-dessus. Mais selon moi, l'arrivée de Vlahovic, elle doit aussi s'accompagner d'une prise de conscience d'Allegri pour permettre à la Juve de remonter au classement et de se créer plus d'occasions et donc d'être plus souvent en situation de chercher à gagner les matchs, à marquer des buts plutôt que de ne pas les perdre.
Il est capable de perdre de ça, et miser sur la taille de Vlahovic aussi, hein, ça peut être bien dégueulasse.
Bon, les gars, on va faire une pause. Il faut partager le temps de parole également, puisque Polo nous attend. On a du temps avec Polo, Julien et Johan. On va poursuivre sur la page Mercato avec une grosse info Mercato qui vient de nous parvenir. RMC Sport qui concerne Newcastle et l'Olympique Lyonnais. On en parle dans un instant, c'est un sacré teasing ça. L'after est là avec Jonathan, Daniel, Kevin et Oussem. À tout de suite.
RMC, 20h30.
L'after foot.
L'After Foot sur RMC avec Jonathan Macardy, Oussem Loussaïef, Kevin Diaz, Daniel Riolo, la CAN, 8e de finale Maroc-Malawi, Hamza Rahmani.
56 minutes de jeu partout entre le Maroc et le Malawi. Deux petites situations en début de seconde période. Bouffal le pied droit enroulé juste à côté. Puis dans la minute suivante, une réaction du Malawi, une frappe de Madinga qui est passée complètement à côté. Premier changement effectué par Vahid Halilhodžić. On l'attendait sur ses trois premiers matchs. Ryan Maillet débute enfin sa Coupe d'Afrique des Nations. Il était impliqué sur 8 buts lors des 5 dernières journées de qualification pour la Coupe du Monde. Il avait manqué les 3 premiers matchs de la CAN sur blessure et il aura au moins 40 minutes de jeu sur ce 8e de finale.
Ça réjouit Oussem apparemment.
C'est un joueur que j'ai découvert pendant les qualifs et j'aime beaucoup.
Alors Jonathan, t'as posé une question, Johan. Comment la Juve fait pour lâcher environ 70 millions d'euros cet hiver?
Voilà, je fais très vite là-dessus. En fait, ils ont signé une augmentation de capital, j'en ai déjà parlé dans l'after, de 400 millions d'euros au tout début janvier. Et dans ces 400 millions d'euros, dans le document qui a été envoyé à la bourse, entre guillemets, parce qu'ils sont cotés en bourse, donc ils sont obligés de fournir des documents expliquant ce qui va être fait de l'argent, il y a une partie qui va servir à la vie du club au jour le jour sur l'année 2022. Il y a une partie qui va servir à rembourser certaines créances, certaines dettes auprès de fournisseurs, auprès de banques, etc. Et il restait dans ces 400 millions d'euros, 80 millions d'euros, où il était souligné que ça pouvait servir à la compétitivité de l'équipe. Et donc, compétitivité de l'équipe, ça, on parle de mercato, même si Arriva Bene, l'administrateur délégué, mi-décembre avait dit, jamais de la vie, cet argent servira à faire des coups de théâtre sur le mercato. Visiblement, un mois plus tard, il a un peu changé d'avis.
Mais Johan, c'est Fiat qui a filé les 400 millions ou c'est vu un appel à l'épargne populaire?
Enfin, non, alors, il y a, non, l'actionnariat,
Non, c'est une très bonne question. L'actionnariat de la Juve n'est pas que Fiat. Il y a Exor. Alors quand on dit Fiat, c'est Exor, la holding de du groupe Agnelli, dont dépend Fiat. Enfin maintenant qui est même plus simplement Fiat, mais Stellantis, qui est actionnaire majoritaire. Mais il y a d'autres actionnaires qui ont souscrit aussi à l'augmentation de capital. Donc Exor a amené 75 millions d'euros immédiatement. Et a pris sa part sa contribution à l'augmentation de capital.
C'est l'actionnariat historique, c'est pas.
Exactement, mais si tu veux, l'actionnariat, il est dilué. Il n'y a plus simplement que Fiat, entre guillemets, maintenant. Il y a d'autres actionnaires, notamment des fonds d'investissement anglais, américains, etc. Et donc, tout le monde a souscrit à cette augmentation de capital. Parce que quand tu décides de faire 400 millions d'euros, il faut que tout le monde souscrive. Sinon, tu peux arriver qu'à 350, 320, selon qui souscrit ou pas à l'augmentation de capital.
Alors, Polo, il y a un homme.
Tu n'as pas fait un teasing pour vendre une idée et tu reviens pas dessus.
T'inquiète pas, c'est construit, ça va être fluide.
D'accord. Enfin, je rappelle que Roy Hodgson a failli être le Bundestrainer de l'Allemagne en 98.
Hodgson, ouais, d'accord. Ouais, bien sûr.
La première fois qu'un entraîneur étranger aurait été sélectionneur de l'Allemagne et finalement ils ont préféré sortir du formulaire Schriebeck et on a vu le résultat à l'Euro 2000.
Polo. Oui. Avant notre info mercato qui ne saurait tarder désormais, on a commencé à en parler samedi soir avec toi. Moussa Diaby, formé au PSG, joueur du Bayer Leverkusen, triplé ce week-end. 11 buts, 8 passes cette saison. Contrat jusqu'en 2025, je crois. Il est protégé, pas de problème. Est-ce qu'il pourrait partir? Est-ce qu'il y a des touches de clubs plus ambitieux encore?
Écoute, je résume ce qu'on a dit samedi. C'est sa troisième saison à Leverkusen. Il est en train d'exploser. C'est-à-dire que, évidemment, l'Allemagne parle beaucoup du petit prodige Wirtz. Évidemment, on parle de Patrick Schick, le buteur. Mais pour moi, la véritable plus-value de cette équipe, elle est française et il s'appelle Moussa Diaby. C'est-à-dire qu'il arrive à maturité, hein, ce qui était pas forcément le cas les années précédentes, où il devait encore s'améliorer au niveau de la passe par rapport à ses coéquipiers, etc. Mais là, tu sens que c'est la véritable plus-value qui est l'un d'un joueur qui a 22 ans et qui en est à sa troisième saison et donc qui arrive vraiment à tirer vers le haut cette équipe. D'ailleurs, tu le vois souvent râler sur le terrain lorsque ça va pas aller vers Leverkusen, etc. Ce que fait pas forcément Wirtz. Patrick Schick vient d'arriver, donc c'est plus délicat pour lui. Ce qui est sûr, c'est qu'à part, on nous fait comprendre qu'il a envie de monter plus haut dans la hiérarchie des clubs européens. La question, c'est qu'est-ce qu'à 22 ans, il est capable d'aller dans un top 8 européen et d'en être titulaire? Moi, c'est toujours cette même question. La deuxième, évidemment, et tu l'as rappelé, il a un contrat jusqu'en 2025, c'est pas gratuit, quoi. À ma connaissance, il n'y a pas de clause de départ dans son contrat. Leverkusen l'avait prolongé d'ailleurs en décembre 2020 parce qu'ils ont vu la petite pépite sur le marché, donc ils ont fait un contrat long terme avec lui. Je suis pas persuadé qu'il puisse. Si tu veux, j'ai pas envie qu'il fasse une Sabitzer en passant de Leipzig au Bayern Munich. Maintenant, s'il a envie de tenter sa chance dans un club plus huppé que le Bayer Leverkusen, qui doit absolument se qualifier pour la Ligue des Champions, évidemment, ça peut être aussi une façon de le conserver une année de plus. C'est possible, mais est-ce qu'il sera titulaire? J'en suis pas persuadé. C'est-à-dire que la question n'est pas savoir si c'est un excellent joueur. Moi, il a une pointe de vitesse extraordinaire. Il est très habile des deux pieds. Il se fait de mieux en mieux les derniers choix par rapport à ses coéquipiers. Il y a pas de souci avec ça. Mais est-ce que c'est un futur grand joueur? J'en suis pas persuadé.
Bon, en tout cas, il est coté aux alentours de 40 millions d'euros là.
Ouais, c'est sûr.
Et Newcastle, évidemment, parce que Newcastle est sur tout le monde sur le marché et très intéressé également. Tiens, justement. Transition, c'est notre info RMC Sport. Newcastle, Julien, ça t'a pas échappé, a fait une offre aujourd'hui pour s'attacher les services de Bruno Guimaraes, le milieu terrain lyonnais, bien sûr, estimé à 36 millions d'euros plus un salaire quadruplé s'il venait à signer à Newcastle.
Ouais, effectivement, c'est vrai. Alors, il a une grosse cote ici en Angleterre, Bruno Guimaraes. Arsenal aussi, c'est un club à qui il plaît beaucoup. Il y en a d'autres aussi. Et pour Newcastle, c'est vrai que de toute façon, comme on le répète presque chaque soir, eux appellent beaucoup d'agents et de directeurs sportifs et d'intermédiaires, de tout ce que vous voulez. Les agents les appellent aussi beaucoup pour essayer de placer des joueurs qui sont pas aussi forts que Bruno Guimaraes. Après, j'admire l'ambition hein, d'aller signer d'essayer en tout cas d'aller recruter un Bruno Guimaraes. Sincèrement, même avec un salaire quadruplé, je vois pas ce qu'il irait faire là-bas. Maintenant, ça peut effectivement peut-être le tenter. Je sais pas si Lyon est prêt à le laisser partir pour 36 millions d'euros, mais en tout cas, je suis pas surpris que Newcastle tente le coup.
Moi, je pense que si, hein, il est plus titulaire. Ça fait un moment qu'il
est
pas
bien en ce moment.
Lui et Cacré, il est au milieu.
Ça fait quand même.
Laissez-le. Ne soyez pas sous le choc.
Mais il est quand même.
Qu'est-ce qu'il y a après?
Il est plus titulaire.
Mais la phrase, elle intéresse pas. Parce que le début,
il est pas titulaire.
Très fort.
Mis à part les 6 premiers mois où il était quand même étincelant, il s'est jamais installé comme étant un titulaire indiscutable sur la durée d'une saison à Lyon.
Il n'est plus titulaire, ça veut dire qu'à l'heure actuelle
il est titulaire, mais c'est pas. Est-ce que ça fait depuis le début de saison qu'il est titulaire indiscutable?
Non, ce serait une grosse perte pour Lyon. En plus, est-ce que c'est une bonne affaire? C'est à voir, parce qu'il a quand même coûté cher. Il a pas coûté genre
20 millions, il a coûté.
J'allais dire 25, mais ouais, je crois que c'était 25.
Non, mais 25 à 35, je veux dire, oui, ok. Tu récupères un peu, mais c'est pas comme s'il avait coûté 5 que tu en vends 35. Toi, on n'est pas dans une culte but fantastique. Lyon, à l'heure actuelle, perdre un joueur clé de son dispositif, parce que moi, je pense, comme Kevin, que c'est un joueur essentiel de l'OL en ce moment. Ça enverrait un signal un peu bizarre pour les Lyonnais, sachant qu'en plus ils ont même pas réussi à faire Hachoum là, qui était annoncé depuis des mois. Et finalement il est passé sous le nez parce que Ponceau a encore fait n'importe quoi.
Et Leverkusen.
Donc voilà. On a déjà dit à quel point il faisait du mal à l'OL, ce monsieur. On l'a déjà dit, je crois.
Pour Lyon, c'est quand même un secteur de jeu où il y a quand même des solutions de rechange s'il venait à partir. Après, ça serait bizarre. Il s'était pas fait tatouer une tête de Lyon, genre 15 jours après être arrivé au club même.
Bruno Guimaraes.
Ouais. Il a appris à parler français hyper vite et tout. T'as l'impression qu'il est très content d'être là, quoi.
Daniel, toi qui aimes bien les chiffres, le salaire de Guimaraes x4, c'est 115 000 euros x4.
Pardon?
C'est 115 000 euros par semaine en Angleterre, quoi.
Oui, voilà.
Il paye la il va vouloir y aller alors.
115 000 euros x4, Daniel, tu vas ou pas?
460 000 euros.
En fait, c'est le x4, tu vois. x4, ça parle.
Après, poser la question à Daniel. Est-ce que si Radio Yvelines t'appelle maintenant et te dit x4, est-ce que tu vas chez Radio Yvelines? Tu quittes l'after.
Non, x4, c'est.
T'as ton mensuel en une semaine.
C'est
comme ça.
Surtout que toi, ton salaire normal, il est déjà.
T'es adjoint au maire aussi.
Et Radio Yvelines, l'année saison prochaine.
Si c'est gauche,
je pense que Radio Yvelines ferme si Daniel signe là-bas pour x4.
Mais attends, pourquoi c'est dans quelle ville, Radio Yvelines?
C'est à Poissy.
Tu me demandes
à Poissy, ouais, Et t'es adjoint au maire de Carl-Olive?
Non, je prends la place de Carl-Olive. Je suis pas son adjoint. En plus, il va être ministre des Sports dans quelques mois, donc je peux prendre sa place. Oui, x4 quand même, ça fait réfléchir x4. Tu connais beaucoup de gens qui disent non.
Julien Laurent, il reste à RMC x4.
Bien sûr.
Mais en plus, x4. Tu rigoles ou quoi? Il peut faire une salle de jeu dans sa maison.
Moi, je vais même chez Europe 1, moi. Je m'en fous. Je vais même chez Europe 1.
Il peut faire une salle de jeu.
Je vais.
Ont essayé, on a vu comment ça s'est passé.
Et puis Julien,
il a fait un tunnel direct vers la place. Sa maison, elle est un peu retirée par rapport à.
Mais Julien, il est déjà blindé. Il y a pas problème.
Julien, il m'a tué.
Purée. Juste pour finir sur Guimaraes, je sais que par exemple, au match des Rangers, on était avec Edouard Jay. Il y avait pas mal de clubs anglais qui s'étaient déplacés, notamment pour le voir lui, pour voir Aouar aussi. Il avait été très très bon ce soir-là en Europa League. Et donc depuis, effectivement, sa cote n'a pas baissé. Après, il y a aussi un gros risque que Newcastle descende en Championship, que ce soit 6 mois galère qui arrive, qu'il se retrouve en Championship la saison prochaine à aller à Stoke City, à Barnsley et dans des endroits pareils. Mmh. Voilà, j'ai un peu de mal à y croire. Après, effectivement, peut-être que lui voit les choses différemment avec son entourage, avec son agent. Et
puis je pense pas, mais encore une fois, monter les enchères un peu plus à mon avis, tu vois.
Oui, mais ce sera plus facile de le faire cet été que de le faire maintenant avec 6 jours qui restent simplement et dans un marché qui est très compliqué.
Mon cher Johan, une des infos des derniers jours en Italie, c'est Mario Balotelli, rappelé en sélection par Roberto Mancini 3 ans après. D'ailleurs, j'ai vu un tweet sympa ce week-end, plutôt drôle, qui disait, écoutez bien, Balotelli en sélection, Daniel Vess au Barça, Mourinho en Italie, CR7 à Manchester United, l'OM sur le podium, des gens croient encore en Ben Arfa, Zlatan au Milan. Retour vers le futur.
Non mais c'est vrai,
c'est dingue.
C'est beau. Ça, c'est très drôle.
Tu peux rajouter Kevin Gamero à Strasbourg.
Bienvenue en 2009.
Et rajoute évidemment qu'il y a Gamero à Strasbourg.
Bakary Koné à Saint-Etienne.
Matuidi revient à Saint-Etienne.
Mangala à Épée.
Non, Matuidi à 3, comme on en parlait il y a quelques jours.
Ouais.
À ma vie à Nice.
Oui, c'est vrai.
Tu sais ce qu'on dit, quand t'as pas d'idée, tu recycles des idées.
T'as pris la de L'Oréal et t'es monté à 88 miles.
Tout
droit. Et c'est parti.
Genesio n'arrive plus à gagner.
Ok. Mario Balotelli donc en sélection, mon cher Johan. Comment on l'explique? Je rappelle qu'il vient pallier l'absence de Chiesa, gravement blessé.
Alors c'est un peu plus complexe que ça, Nico. En fait, il y a 35 joueurs qui ont été appelés. Alors 35, on va passer à 37 rapidement. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, c'est un stage de 3 jours dans le Clairefontaine italien. C'était une demande de Roberto Mancini parce qu'en fait, c'est la seule sélection européenne qui fait ça. C'est pour bosser tactiquement en vue des barrages de mars parce que ces barrages sont ultra importants. Donc la fédération, les clubs se sont mis d'accord parce que les clubs ont aussi bien conscience que c'est très important d'être à la Coupe du Monde pour un pays et que ça a des répercussions aussi pour eux. Donc il a appelé 35 joueurs, il n'y a que les joueurs de l'étranger sauf Balotelli qui n'ont pas été appelés, donc Verratti, Donnarumma, Jorginho, Emerson n'y sont pas. Et donc dans ces 35 joueurs, il y a pas mal d'enseignements, il y a des nouveaux, des joueurs de U21 qui sont montés. D'ailleurs, je vous conseille d'aller lire, comme ça je le fais pas ce soir à l'antenne, mais d'aller lire un papier que j'ai rédigé pour le site de RMC Sport qui présente 4 petits nouveaux milieu de terrain, défenseurs de la sélection. Il y a 2 Oriundi, 2 nouveaux, João Pedro de Cagliari et Luis Felipe de la Lazio. Donc en gros, ouais. Oriundi, c'est des étrangers qui ont le double nationalité, le passeport aussi italien, qui peuvent jouer en sélection, comme Toloi par exemple, comme le plus célèbre, c'est Camoranesi évidemment, qui a longtemps joué pour l'Italie. Et il y a donc celui qui fait la une, évidemment, Mario Balotelli. Alors. Déjà, premier camouflé, en fait, c'est pour Moise Kean, parce que lui n'a pas été appelé. C'est-à-dire que Roberto Mancini a préféré rappeler Mario Balotelli, 31 ans, 3 ans d'absence en sélection, qui joue désormais en Turquie, plutôt que de prendre Moise Kean. Donc ça, c'est... Je pense que pour Moise Kean, le coup doit être assez, assez dur. Ensuite, pourquoi Balotelli? Eh ben, figurez-vous, j'ai du mal à répondre à cette question. La première chose, c'est que...
Alors, si toi, t'as pas de base, réponse, je sais pas qui va en avoir. Hein.
Non, mais il y a une base, en fait, Daniel.
Il marque des buts, quand même. Il marque des buts cette saison.
Oui, il marque des buts. Mais Gabbiadini marque aussi des buts à la Sampdoria. Enfin, voilà, il y a des attaquants en Serbie qui marquent des buts. Il n'y a pas de problème, quoi. Vincenzo Montella, qui est l'entraîneur à Demirspor, maintenant en Turquie, le club de Balotelli. Donc voilà, il a expliqué ce matin dans la Gazzetta que il avait fait énormément travailler physiquement et qu'il était affûté, qu'il s'était remis en forme.
Oh,
etc.
Le coup franc, c'est encore
Hakimi. Johan, but d'Hakimi, magnifique pour le Maroc.
Il réitère Achraf Hakimi après son coup franc exceptionnel face au Gabon en phase de poule. Mais alors là, c'est exactement le même coup franc au même endroit. Achraf Hakimi qui cette fois va choisir le côté gauche du gardien. Tomou ne pouvait absolument rien faire. Il avait déjà failli marquer sur coup franc première période. Il est exceptionnel, le pied droit d'Achraf Hakimi. Ça fait 2-1 pour le Maroc face au Malawi. 70 minutes de jeu.
Pour devenir le tireur de coup franc au PSG, il peut se lever tôt.
Il faudrait le laisser. Hein.
Tout à l'heure, il en a tiré un sorti par le gardien au 25 mètres.
Je crois que Pochettino va dire les gars, Lionel, Neymar, écartez-vous. C'est
magnifique. Il est très très bien frappé. En plus, c'est un coup franc qui est pour un gaucher à la base.
Exceptionnel.
Il se présente tout seul derrière le ballon. Il le met par-dessus le mur.
On a combien là? On a 30 mètres.
Vraiment, elle est exceptionnelle cette frappe.
Allez, on prolonge sur Balotelli avec toi, Johan. Désolé, tu connais le.
Non, non, il y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Donc apparemment, il est plus en forme. Ok, très bien. Moi, j'ai tendance à faire confiance à Roberto Mancini parce que quand il appelle des jeunes joueurs que personne ne connaît, bah ça marche, comme Zaniolo qui n'avait pas joué un match en professionnel. Quand il appelle des joueurs de série B, ça marche aussi, comme Tonali. Bon, on a tendance, avec tout ce qui s'est passé et maintenant tout le passé de Roberto Mancini en sélection, à lui faire confiance. Mine de rien, c'est quand même l'entraîneur qui connaît le mieux Balotelli aussi. Il l'a eu à l'Inter, il l'a eu à City, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, donc il y a eu pas mal de bas. Donc pour qu'il le rappelle aujourd'hui, c'est quand même que
il
connaît bien le garçon.
Qui voit un amour considérable à la sélection et qui va revenir ultra motivé aussi.
Alors bon, deux dernières petites choses, Nico.
Vas-y.
La première, c'est que tout le monde dit oui, sur 10 minutes, il peut faire la différence, etc. Ce qui est vrai, mais ça fait des années qu'on dit ça, ça fait des années qu'on l'attend, et combien de fois il l'a fait. Première chose. Donc il peut le faire. Oui, il peut. Mais est-ce qu'il est en capacité de le faire depuis quelques années? On n'a pas trop la réponse là-dessus. Et puis deuxième chose. C'est juste un stage là actuellement de 3 jours. C'est-à-dire que il n'est pas convoqué pour les barrages pour le moment. Il y a 35 joueurs qui ont été appelés. Je pense que les Immobiliers, les Scamacca, les Insigne, tous ces joueurs-là sont devant lui dans la hiérarchie. Il reste encore 2 mois aussi de compétition à tenir pour Balotelli. Il ne faut pas qu'il se blesse, il ne faut pas qu'il ait le Covid. Il l'a eu là ces derniers temps, donc espérons qu'il ne le réattrape pas bientôt. Donc il y a encore beaucoup d'éléments avant de le voir convoqué pour les barrages. Mais néanmoins, il y a un gros point d'interrogation. C'est un peu l'histoire de Ben Arfa. Oui, Ben Arfa, il peut faire plein de trucs. Oui, il peut. bah Balotelli peut faire plein de trucs, il peut. Bah on attend de voir en fait, et on a attendu pendant longtemps, donc espérons qu'avec Roberto Mancini ça puisse changer.
Allez, vous restez avec nous dans un instant. On va parler d'Anthony Martial avec Julien et du Bayern avec Polo, Jonathan McCarty, Kevin Diaz, Oussem Loussaïef, Daniel Riolo, toujours 2-1 pour le Maroc face au Malawi après 72 minutes de jeu. C'est l'after. À tout de suite.
RMC,
l'after foot, Nicolas Jamain.
L'after sur RMC, 21h34, Kevin Diaz, Oussem Loussaïef, Jonathan McCarty, Daniel Riolo et nos trois drôles de dames, Yoann Crochet, Julien Laurence et Polo Breitner. Polo, tu voulais nous parler du Bayern. D'abord, petit point Cannes. Maroc Malawi, Hamza Ramani.
Le dernier quart d'heure, on y est dans 15 secondes, toujours 2-1 pour le Maroc face au Malawi. Rapidement, on rappelle les buteurs. Mango à la 7e minute, peut-être le but de cette Coupe d'Afrique des Nations. Et les séries 45e minute plus 2 et Hakimi sur coup franc il y a quelques minutes.
Il y a Kylian Mbappé qui vient de tweeter pour son copain. Achraf Hakimi, best right back in the world, meilleur arrière droit au monde. Voilà.
D'accord, il dit pas si c'est à toi les coups francs maintenant au PSG, non, il n'est pas sur ce terrain-là.
Non,
d'accord.
Il le laissera tirer.
Oui, lui peut-être, mais c'est pas lui qui tient non plus. Donc, Polo, le Bayern Munich. Tu voulais en parler parce que tu voulais revenir sur les choix offensifs de Nagelsmann, qui ne choisit pas entre Coman, Sané, Gnabry, mais les trois.
Mais ça, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que l'histoire récente du Bayern Munich, c'est le 4-2-3-1 évidemment. Et là, tu te rends compte que tu dois faire sur les ailes des choix entre Kingsley Coman, entre Gnabry et évidemment Leroy Sané en fonction de la forme du moment ou des blessures ou des choses comme ça. Coman avait pris un petit peu d'avance sur ses concurrents directs et Leroy Sané est revenu à un niveau extraordinaire. Et là, t'as un nouveau coach qui s'appelle Nagelsmann, qui est resté relativement classique depuis le début de la saison. On en a parlé souvent dans l'after depuis le début de l'exercice. Et puis finalement, là, tu te rends compte qu'il y a deux absents, Davis et puis Goretzka. Et là, Julian Nagelsmann. Pourquoi est-ce que moi j'ai toujours été un fan de Nagelsmann? C'est que, à la différence de beaucoup de personnes, je l'ai vu jouer à Hoffenheim. Et à Hoffenheim, il mettait en place un système de jeu ultra offensif que moi j'avais appelé ça la tactique du parapluie. C'est-à-dire que c'est un 3-1-6 en fait. Et les 6 évidemment, c'est les tiges qui se déploient, quoi, c'est les 6 joueurs à vocation offensive. Vous avez un numéro 6, en gros c'est Kimmich qui est tout seul, et vous avez trois défenseurs centraux qui sont autour d'un feu parce qu'ils ont rien à faire, quoi. Et vous vous retrouvez, et il a recommencé à faire ça au Bayern Munich d'une façon extrêmement récente. Alors encore une fois, est-ce que il va le pérenniser dans l'avenir, je ne sais pas.
Et en Ligue des Champions surtout.
Et en Ligue des Champions, il faut que ça tienne parce que ça demande un repli défensif très important. Mais si vous voulez, vous avez Coman, Gnabry, Tolisso qui en ce moment remplace Goretzka, qui est dans une forme assez évidente, qui se retrouve souvent au même niveau que Lewandowski, Müller plus Sané, qui sont quasiment dans les 20 derniers mètres adverses systématiquement. Et donc ils étouffent complètement l'adversaire. Le Hertha Berlin, ils ont complètement explosé. Ce week-end, ils n'ont même pas pu dépasser le milieu de terrain en première mi-temps. Et je me demande si on ne va pas retrouver, version Bayern, le Hoffenheim de l'époque que vous avez vu sûrement, rappelez-vous, en Ligue des Champions, le 2-2 et 3-3 qui avait fait des matchs. Et à l'époque, Nagelsmann, il a été resté quasiment 2 ans et demi à Hoffenheim. Il a disputé plus de 130 matchs. Et en gros, sur ces 130 matchs, il y a quoi? Il y a 8 matchs où il n'y a pas un but encaissé. Mais à chaque fois, il y a un but de plus de marqué. Donc c'est très intéressant. Intéressant de voir cette évolution tactique qui, moi, ce week-end m'a fait un plaisir monstre. On avait vu ça pendant 20 minutes à Benfica en Ligue des Champions lors du premier tour, où c'était compliqué pour le Bayern. C'était un magnifique match où Benfica, d'ailleurs, est une très très belle équipe. Et justement, il avait changé de schéma tactique en passant dans une défense à 3, en amenant justement Gnabry et pour version Hoffenheim, qui était son joueur d'ailleurs à l'époque, Hoffenheim qui était prêté. Et là, il est en train de faire la même chose. Alors, est-ce que ça va changer tactiquement? Est-ce que Davis va retrouver sa place, par exemple? Est-ce que Goretzka, quand il va revenir de son problème à la hanche, va reprendre la place de Tolisso? Je ne sais pas, mais en tout cas, le débat Coman, Gnabry ou Sané, Nagelsmann, il ne s'impose pas, quoi.
Polo, dans ce système-là, est-ce que c'est pas une place assurée pour Pavard et Hernandez, qui ont cette faculté à s'écarter justement sur les ailes pour les phases en phase offensive aussi?
Ben, en fait, eux, ils vont faire partie des trois défenseurs centraux et ils vont pas avoir grand-chose à faire. Et Upamecano, ouais, enfin, vu sa prestation de ce week-end, c'est compliqué. Mais le Zule est pour l'instant titulaire. Vous savez que Zule va partir, d'ailleurs, il n'y a pas de prolongation de contrat. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir un duel aussi pour avoir les trois défenseurs centraux qu'on veut voir. Pavard en stopper droit, évidemment, et Hernandez en stopper gauche. Et on va voir qui va prendre la place, entre guillemets, libéro à l'ancienne, quoi. Ouais. Ça, la logique, c'est Upamecano, mais Zule peut très bien prendre la place de Pavard. Et encore une fois, en ce moment, moi, je le dis, Coman, en piston, c'est quelqu'un que j'attends énormément. Je sais que Juju est pas d'accord avec moi là-dessus, mais
je le préfère.
Je le préférais piston droit d'ailleurs moi plutôt que piston gauche, mais ça pose la question de Gnabry. On verra ce qu'il va faire avec Davis, mais en tout cas l'évolution tactique est à observer dans les prochaines semaines parce que oui.
Ouais, Polo, excuse-moi, mais est-ce que tu penses que en Bundesliga ça devrait passer cette option très offensive, mais on était d'accord avec moi que en fonction des adversaires en Ligue des Champions, tu peux avoir des problèmes aussi.
Ben tout à fait.
C'est-à-dire mais moi je connais un peu moins Nagelsmann bien sûr. Comment lui il va faire? Est-ce qu'il va, si on parle souvent notamment avec Peter Boss, est-ce que tu t'adaptes en fonction de ton adversaire ou est-ce que tu gardes tes préceptes jusqu'au bout? Qu'est-ce qu'il va faire s'il joue contre City? Il va continuer de vouloir aller marquer des buts, quitte à en prendre 3, il faut en marquer 4.
Déjà le cas de City est très très intéressant parce qu'aujourd'hui lorsque je vois le niveau du Bayern, je suis désolé mais en Europe, il y a pas 50 équipes qui peuvent rivaliser avec le club bavarois. Ah,
c'est sûr, c'est pour ça que je prends City.
Donc il y a City et le problème c'est que soit tu rencontres City en finale, soit tu le rencontres en face à élimination directe, là ça se joue sur deux matchs. Moi, je pourrais très bien imaginer un Nagelsmann au match aller en Angleterre se mettre dans une position ultra offensive avec les risques que ça veut dire parce qu'il faut absolument que l'équilibre soit là hein. Donc évidemment le Hertha Berlin c'est pas Manchester City, c'est pas la question, mais est-ce que ça tient, je sais pas, mais ce qui me plaît là-dedans c'est le côté artistique de Nagelsmann dont on a dit ok, il est resté dans son 4-2-3-1 habituel dès le début de saison et là il est en train de mettre sa patte petit à petit comment ça va évoluer
du c'est coup ça si, tu joues, si tu joues comme ça, qui peut rentrer en cours de match s'il y a des changements à faire offensivement?
Il y a que Moussiala en fait. Ça c'est le vrai problème si on veut un joueur. Zabitzer évidemment c'est remplaçant de luxe. La question, enfin ce que je vous dis tout à l'heure, c'est si quand Davis va revenir, difficile de pas l'imaginer piston gauche.
Comment donc, il va d'ailleurs lui?
Il a myocardite, on appelle ça comme ça, je crois. Donc ça va attendre quelques temps. Mais apparemment, il a participé à des entraînements individuels. Et en fait, ce qui se dit en Allemagne, c'est qu'ils sont en train de ramener Goretzka et Davis au top pour les matchs de fin de saison.
Alors, ça dis-moi, Paulo, j'ai une question là-dessus. Tout ce que tu dis là, effectivement, est très excitant. La façon dont joue Bayern, ce qu'essaye de faire Nagelsmann. Est-ce qu'il y a en Allemagne, un peu à l'instar de ce qu'on peut avoir nous en France quand on parle du PSG, une sorte d'excitation et d'empressement à dire bon ben allez on se frotte les mains, le Bayern on a vraiment envie de voir ce que ça va donner en Ligue des Champions parce que c'est une compétition qui est à la mesure de ce club là. Alors, est-ce qu'on en parle, les journalistes en parlent, mais qu'est-ce que ça va donner, tout ce que tente Nagelsmann, quand ça jouera en Ligue des Champions, bon, même s'ils ont un huitième qui est facile, forcément. Donc, est-ce qu'ils sont pressés, là, de voir un peu ce que ça peut donner, s'ils vont,
c'est pas une question d'empressement, ce qui est sûr, c'est que l'ADN du Bayern, qui était une machine à gagner avant, a ajouté dans son ADN le fait de bien jouer. Ça c'est relativement récent. Quand j'ai commencé à m'intéresser, oui, il y a Guardiola, il y avait Henkes avant, etc. Mais si tu veux, il fallait gagner. La jauge du football allemand, le Bayern gagne, ça va. On s'en fiche un peu du reste. La révolution du foot allemand a amené autre chose. Le Bayern a mis un peu de temps à s'y installer. Le cas Guardiola. D'ailleurs, l'un des plus beaux Bayern de l'histoire de ce club. Hein, faut pas l'oublier sur le terrain ce qui s'est passé. Mais sauf qu'il a pas gagné. Il n'a pas gagné en Ligue des Champions. Et donc, de notre côté, l'ancien ADN est toujours un peu là. Ce qui est sûr, c'est qu'avec Nagelsmann et ce qu'il propose, c'est que quand tu as la démonstration de ce week-end, on se dit vivement la Ligue des Champions. C'est ça c'est sûr. Mais ils veulent pas s'emballer parce que le football allemand quand même a un certain respect des équipes qui restent quoi. Ils savent que c'est pas facile tout en sachant que l'histoire de ce qu'ils appellent il faut que je le traduise en français
dis-le en allemand, c'est pas grave.
Prägen eine Ära, c'est créer une ère où on va gagner 2-3 fois à la suite de la Ligue des Champions. Elle est régulièrement écrite dans les médias allemands. Donc il y a une envie, ça c'est très clair. Ensuite, s'il y arrive en faisant ce fameux 3-1-6 que j'essaie de vous expliquer, ça serait extraordinaire quoi, parce que t'aurais peut-être quelques coachs en Europe qui se diraient mais si on se mettait à jouer comme ça, etc. Mais pour ta réponse, ils sont prudents.
Oui.
Déjà parce qu'ils sont fait sortir l'année dernière, faut pas l'oublier. Hein, donc mais on se dit il y a peut-être un truc à faire quand même. Quoi.
Tu restes avec nous, Polo. Julien, dans un instant, on parle avec toi d'Anthony Martial. Des nouvelles également de Toguin Dombélé. Viendra pas au PSG.
Il vient, Oussem a dit qu'il venait.
Ah, ça y est, t'as l'info, Oussem?
Pas dit, sûr, mais
je dis que c'est publié là sur le site.
Non, je dis que les discussions étaient bien avancées.